Beurre FM, 11h midi, c'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serrat.
Tous.
Alors là, non, Maître Serrat, au niveau de votre bonjour, on l'a pas eu.
C'est-à-dire qu'on me fait un signe pour me dire je peux prendre la parole et vous êtes même pas synchrone, les gars.
Non.
Oh, l'amateurisme. On recommence ?
Ouais, mais est-ce que vous voulez qu'on vous recale votre générique?
Oh, carrément, quel privilège.
Mais quelle exigence. Est-ce qu'on peut est-ce que l'orchestre peut remonter sur scène pour qu'on recale le générique de Maître Serran?
Beurre FM, 11h midi. C'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.
Donc, bien le bonjour, mes amis. Salam alaikum à tous. Enfin de retour pour une émission en direct. Et oui, il faudra expliquer, mon cher Philippe, à nos auditeurs ce que vous avez bien foutu pendant tout ce temps. Il s'en est passé des choses pendant 15 jours, mon cher Philippe. L'affaire Hulot, l'affaire Darmanin, que des histoires de slip, de khalza. Alors, traduction, c'est deux fesses. Bon, en même temps, tu me diras en quoi ça remettra en cause leurs compétences ministérielles, mais bon, là, ça fait désordre. Non, je vais finir par croire, mon cher Philippe, que c'est la fesse qui fait tourner le monde. Oui, monsieur, la fesse. Mais si c'était que ça, deux révélations extraordinaires ces derniers jours, Jonathan Daval qui reconnaît avoir tué sa femme. Ouais, voilà le type, bon acteur quand même, hein. On a tous cru à ses larmes alors qu'il devait pleurer sur son sort, mskin. Bon, c'est vrai que son avocat a dit que sa femme manifestement lui cassé l'air et qu'il a craqué. Mais t'imagines-toi, si on devait fumer sa femme parce qu'elle te saoule, c'est pas possible. Par définition, une femme, ça saoule, ça braille, et blablabla, et blablabla. Mais pour autant, c'est comme ça qu'on les aime. Eh, j'étais obligé de rajouter ça, ce serait suicidaire en ce moment de critiquer les femmes. Et puis, Maître Serran a toujours été un gentleman. Autre révélation, Nordal Lelandais. Ah, ces derniers jours, je vous l'ai dit, hein, je sais pas ce qui se passe, mais les types passent tous à table. Non, mais là, c'est trop. Tu vois, là, normalement, c'est ton instinct animal qui revient en toi. C'est comme quand le docteur David Bruce Banner, ce médecin et homme de science, se transforme en Hulk. Alors, tu te renseignes sur la meilleure marque de chalumeau, t'en achètes deux, et puis tu te dis, je vais peut-être le finir au chalumeau. Mais tu peux pas, car la grandeur d'une démocratie, mon ami, c'est de permettre à un type comme ça, quelle que soit la nature du crime, d'être assisté par un avocat, de se défendre. Je vous l'ai dit, mon cher Philippe, durant ces 15 jours, on a vu des trucs bizarres. Et on a eu le droit à une énième affaire de voix, l'affaire Menel. Cette demoiselle de The Voice qui, pour deux tweets, a été contrainte de quitter l'émission. Une demoiselle de 22 ans qui, faut se l'avouer, dérangeait peut-être avec son voile. Ça ressemble plus à un turban qu'à un voile. Et quel déchaînement de violence contre cette fille qui a donc quitté l'émission. Bizarre, hein, la vie. T'as deux ministres qui sont mis en cause pour des histoires de Huck qui démissionnent pas. T'as une gamine qui, un jour, envoie deux tweets et qui décide de démissionner ou qui a été démissionnée. Cherchez l'erreur. Mais, auditeur, tu chercheras après avoir appelé le 01 53 48 3000 pour poser tes questions à Maître Serran, émission sous le contrôle de monsieur Philippe Robichon, Beurre FM. C'est tout droit. C'est parti.
Maître Serran, en exclusivité mondiale sur Beurre FM. Maître Serran, comment allez-vous?
Bien. Et vous aurez remarqué, j'espère,
oui,
que j'ai été chez le coiffeur.
C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais. Ouais, hein. Vous êtes magnifique.
Ah, c'est gentil ce que vous dites.
C'est dommage qu'on fasse de la radio,
oui, c'est vrai,
Serran, parce que
rien
je pense
pour ça,
que votre longue chevelure bouclée échappe à une grande partie de nos auditeurs.
Je suis d'accord.
Et c'est quand même triste. Par contre,
Ça repousse en même temps quand on se rase.
Vous n'êtes pas allé chez le barbier.
Non.
Non, vous n'avez fait que coiffeur.
Ouais, c'est tout.
Bien, Maître Serran, vous souhaitez évoquer pour cette émission une décision qui a été rendue par la Cour européenne des droits de l'homme en début de mois et qui a condamné la France pour avoir expulsé un ressortissant algérien qui a été condamné en 2006 à 7 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste et interdiction définitive du territoire. Qu'est-ce que ça pose comme question?
Alors d'abord, c'est très intéressant de citer ce genre de décision, puisqu'on le voit, hein, dans le cadre des émissions, on évoque parfois des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Et il faut savoir que ces décisions de la Cour européenne des droits de l'homme donc vont s'imposer donc aux États européens.
On demande souvent à quoi ça sert.
Exactement. Donc c'est vrai que cette décision est importante. Alors, je vais expliquer, la décision est importante, mais malheureusement, elle a été rendue un peu tardivement en raison de la duplicité du gouvernement français. Donc c'est vrai que cette personne a été condamnée pour des faits graves, hein, bon, participation, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes terroristes et d'une peine d'interdiction définitive du territoire français. Donc la peine de l'intéressé est terminée. Il est placé il est assigné à résidence depuis 2010. Donc c'est pas rien. Lorsqu'il se présente au commissariat du coin, en fait, il doit s'y présenter tous les jours et il se présente au commissariat, on lui remet un courrier pour lui dire, cher monsieur, vous allez quitter le territoire. Alors, la difficulté, quelle est-elle ? La difficulté, c'est que cette personne n'a pas été en mesure de saisir dans les délais les plus rapides la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, il fait une première saisine, sauf que, au moment où la Cour européenne des droits de l'homme rend sa décision, que répondent les autorités françaises ? En concertation avec, évidemment, les autorités algériennes, hein. On va pas cacher cet aspect-là. Bah, à ce moment-là, on nous dit, écoutez, on est navré, la décision est rendue, mais il est déjà dans l'avion, les portes sont fermées, et, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que l'avion arrive, évidemment, sur le territoire algérien.
Et
sur le territoire algérien.
Comité d'accueil.
C'est-à-dire que on sait très bien ce qu'on peut comprendre, mais c'est bien dommage puisque c'est un non-respect de la loi. On peut comprendre que les autorités algériennes soient chatouilleuses en la matière et l'intéressé donc a été placé en détention. C'est-à-dire qu'on a un type qui est placé en détention pendant des années sur le territoire français. Sa peine donc est terminée. Après que sa peine soit terminée, il est assigné à résidence. On le renvoie en Algérie, il se retrouve encore en prison. Alors ça pose question, puisque ça veut dire quand même que, alors certes, on a une belle décision qui condamne les autorités françaises, pour autant, l'intéressé a été expulsé de manière illégale, pour autant, l'intéressé se trouve aujourd'hui sur le territoire algérien, donc placé en détention, et ça pose un vrai problème, c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'introduction, pour nos démocraties, quelle que soit. Alors c'est évidemment peut-être terrible à entendre pour les personnes qui ont pu être victimes indirectes ou pas pour ce type d'acte, mais on rappelle quand même que ce qui fait qu'on le veuille ou non la grandeur d'un pays, c'est cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on ne combat pas le terrorisme en se comportant comme ces terroristes eux-mêmes. Donc à partir du moment où vous avez une juridiction européenne qui nous dit que cette personne ne peut pas être expulsée en Algérie puisque on soupçonne que les autorités algériennes, quelque peu fâchées, vont peut-être mal se comporter avec cet intéressé. Donc c'est vrai que je trouve inquiétant qu'un pays comme la France, qui au nom d'un combat contre le terrorisme et qui est un combat qui est légitime, s'autorise donc à ne pas respecter des décisions, encore une fois, rendues pas par la petite personne dans au fin fond de sa campagne, mais par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça, c'est très inquiétant. Donc on a une véritable dérive. Après, on peut aussi dire les choses. C'est-à-dire, on peut aussi dire qu'à partir du moment où on vous soupçonne, ou à partir du moment où vous êtes condamné pour des actes de terrorisme, vous relevez d'une sorte de droit d'exception. Sauf que le droit d'exception en la matière n'existe pas. Donc, je voulais mettre ça en avant, je trouve ça très triste que la France, et je le redis, les autorités algériennes, puisque ça s'est fait de connivence, se soient organisées pour, à la va-vite, dégager ce pauvre type, et je crois que c'est le bon terme. Encore une fois, quels que soient les actes qui ont pu être accomplis, il a, qu'on le veuille ou non, payé sa dette. Donc voilà, je trouve ça très triste et je voulais le signaler aujourd'hui.
À partir du moment où la France est donc condamnée à partir du 1er février dernier, est-ce que ça veut dire que le droit est applicable ? C'est-à-dire que ça fait jurisprudence, non ?
Alors, la difficulté, c'est que la décision est bonne, mais c'est une décision qui, comme on dit en droit, ne peut s'appliquer de manière effective qu'à partir du moment où l'intéressé est encore sur le territoire français. Vous vous doutez bien que les autorités algériennes vont pas dire « Ah bon, d'accord, puisqu'il devait rester sur le territoire français, on va vous le renvoyer. »
Mais est-ce que ça fera jurisprudence ?
Non, encore une fois, on est... Alors, j'aime pas le terme de droit d'exception, parce que c'est pas le cas, mais on voit bien que dans la pratique, les gouvernements des différents États font parfois abstraction de ces règles-là. Là, jurisprudence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va évidemment demander à une personne de quitter le territoire français, on pourra invoquer bien sûr ce type de décision, mais même chose, la duplicité fait que ce type, il va pointer au commissariat, on lui dit oralement, cher monsieur, il y a un avion qui part là tout à l'heure. L'effectivité du droit pose difficulté. Il n'a pas le temps de s'organiser, il n'a pas le temps de contacter son avocat, il n'a pas eu le temps de faire ce qu'il avait à faire. Et peut-être que la Cour européenne des droits de l'homme ne lui aurait pas donné raison, ça c'est possible aussi. Sauf que quand on vous donne raison, mais que vous êtes de l'autre côté de la Méditerranée, alors pour lui, c'est terminé. Maintenant, vous avez raison, c'est une décision qui pourra ou qui pourrait éventuellement ensuite être invoquée pour des personnes dans la même situation que ce monsieur qui a fait l'objet d'une expulsion abusive.
Mina de Creil est avec nous. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions à Maître Serran au 01 53 48 3000. En plus, il y répond. Mina, bienvenue.
Oui, allô. Oui, bonjour.
Bonjour, Mina.
Alors, moi, c'est une petite question par rapport à quelqu'un qui est né sur le sol français.
Oui.
Et qui est reparti au Maroc à l'âge de 6 ans. Je voulais savoir s'il avait le droit aujourd'hui, à quelle démarche effectuer pour revenir en France.
Ah non, alors ça bonjour Mina d'abord. Le fait d'être né sur le territoire français vous attribue pas de droit particulier, c'est-à-dire que s'il est né sur le territoire français, qu'il a la nationalité marocaine et qui repart au pays et qui vient en disant je suis né ou j'étais né en France et j'aimerais par rapport à ça éventuellement soit avoir un titre de séjour, soit avoir une nationalité française. Non, ça n'accorde pas de droit particulier. C'est-à-dire que si cette personne veut venir sur le territoire français, elle devra tout simplement solliciter, comme monsieur et madame tout le monde, un visa. C'est pas un élément particulier.
Il n'y a pas de droit du sol, parce que j'ai souvent entendu parler du droit du sol.
Non. Donc il n'y a pas de. Faut toujours faire attention à ce qui se dit. En règle générale, tout ce qu'on entend, a priori, va en faveur des uns et des autres, mais c'est faux. Non, il n'y a pas de droit particulier. Il veut venir sur le territoire français, ou cette personne, elle, veut venir sur le territoire français, c'est un visa. Mais je le redis, l'argument qui consisterait à dire je vous signale que je suis né sur le territoire français, on va vous dire c'est bien, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire ça facilite pas le dossier, ça n'apporte pas un droit particulier.
D'accord, très bien.
Vous avez l'air déçu à la voix là, je sens une tristesse presque.
Oui, parce que je pensais qu'il aurait pu revenir ici en fait, parce qu'il a vraiment envie de revenir en France.
Oui, pour faire quoi? C'est ça la question.
Il a son frère en fait ici, là-bas il est tout seul. Son père l'a emmené quand il avait 6 ans.
Ouais.
Et du coup, ils sont séparés.
Et il a quel âge ce monsieur?
Aujourd'hui, il a plus de 30 ans aujourd'hui.
Ah, ouais. Non, encore une fois, les ceux qui m'écoutent connaissent ma position. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui m'a appelé la dernière fois pour me dire, Maître Serran, vous avez dit pourquoi est-ce que, en l'occurrence, c'était des Algériens, pourquoi est-ce que vous considérez que tout le monde veut venir sur le territoire français? Encore une fois, moi, je considère que le monde est à tout le monde. Donc, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Je considère aussi que les pays du Maghreb ne pourront jamais avoir une vie correcte si le vivier part, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France. C'est ça qui me fait un peu peur. Ces pays-là, au bout d'un moment, quand ils vont être vides, quand ce sera une coquille vide, il restera plus rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des pays qui finissent par devenir nos cimetières. C'est-à-dire qu'on va dans ces pays pour enterrer nos proches. C'est ça qui m'inquiète un peu. Mais je redis, pour répondre à cette personne que j'avais eue au téléphone, et je lui précise, moi, évidemment, que les gens veulent venir sur le territoire français, au Canada, je peux l'entendre et le comprendre. Mais je dis, faites attention quand même. C'est-à-dire qu'ensuite, qui va faire, qu'on le veuille ou non, tourner ce pays? Ces pays. Et ça m'inquiète un peu.
Moi, je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Et en plus, moi, je leur dis, il n'y a rien en France.
Mais c'est terrible ce que vous dites, parce que moi, je vois des clients qui sont effectivement sur le territoire français, qui vivent vraiment, mais dans des conditions pas possibles. Et parfois, ces personnes en ont marre et on nous dit, vous savez, maître au pays, j'ai une grande maison, j'ai ceci, j'ai cela. On a envie de leur dire, au bout d'un moment, faut aussi se retrousser les manches. C'est-à-dire que ce soit en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, si vous allez là-bas pour buller, il se passera rien. Si vous vous retroussez pas les manches, ça pose difficulté. Donc, moi, c'est ça qui m'inquiète. Mais évidemment, ceux, comme dit à l'autre, qui veulent venir sur le territoire français, dont acte. Je peux le comprendre et l'entendre. Mais ça m'attriste quand même. Bon, en tout cas, alors je suis navré, j'aurais préféré vous apporter une autre réponse, mais le fait d'être né sur le territoire français, n'attribue pas de droit particulier.
D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup, parce que c'est vraiment une question, j'en entends parler depuis tellement longtemps, il fallait que je sache et que je puisse lui répondre, en fait. Parce que j'avais demandé en plus à un avocat, que je connais comme ça, et qui m'avait dit qu'il avait des droits. Après, on n'avait pas approfondi.
Juste dire il avait des droits, il a le droit de demander un visa. C'est un droit.
Venir en France complètement, c'est ce qu'il voulait dire, quoi. Mais bon, après, peut-être qu'il ne connaît pas vraiment, je ne sais pas. Il y a peut-être des avocats qui ont fait leurs études, je ne sais pas où.
Ah non, mais après, vous savez, c'est comme dans tous les domaines. Après,
vendre du rêve.
Non, mais bien sûr, Moi, la difficulté, c'est ça. Mais quand on vend du rêve, après, le résultat, c'est que de la déception.
Bah oui, je préfère au moins la vérité.
Tant qu'à faire.
C'est clair, c'est mieux.
Merci Mina. Ah,
merci beaucoup, Mina, merci pour votre appel.
Et on prendra d'autres appels dans un instant. Maître Serran répond à vos questions. 01 53 48 3000. Qu'est-ce que vous faites là, Maître Serran? Vous faites votre gymnastique du coup?
Ouais, je suis obligé parce que si je fais pas ça, ça fait mal. Donc je dois me claquer le cou, je sais pas, 10 fois par jour, je crois.
Ah ouais?
Ouais.
Ah non, c'est impressionnant, dis donc.
Ah, pas
on
mal.
Dirait une cigogne.
Non, carrément.
Ou une girafe. Allez, 01 53 48 3000.
11h midi. C'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran. 11h midi, c'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.
Maître Serran qui commentait une actualité riche, hein, vous me tenez au courant de tout ce qui s'est passé.
Oui.
Maître Serran, c'est incroyable ce qui se passe.
Oui, donc Jawad, le logeur, enfin celui qu'on a qualifié de logeur de Daesh, a été relaxé.
Ça, je ne savais pas, j'ai appris.
Ben, voilà,
vous me l'apprenez, là, Maître Serran.
Alors, j'ai appris ça, et puis je dis, c'est tant mieux s'il ne s'y tient pas la route. Et ce qui me déçoit, c'est qu'on a eu des politiques, c'est qu'on a eu certains avocats, mais à la limite, ils sont dans leur rôle. Et ce sont les politiques, hein, qui ne sont pas dans leur rôle, qui ont critiqué cette décision. Je trouve ça extraordinaire.
On est relaxé.
Ouais.
Bon. 01 53 48 3000. Kaina vous appelle, Maître Serran. Bienvenue,
bonjour,
Kaina.
Bonjour.
Bonjour, Kaina.
Bonjour à toute l'équipe de Beurre FM. Moi, j'avais une question concernant ma mère qui vit en Algérie. Et en fait, elle fait les allers-retours. Elle a tout le temps des visas. Là, récemment, elle a un visa de 2 ans. Et je voulais savoir, elle a 6 enfants. On est tous ici en France. On est 3 pour la nationalité française. Et mes 3 autres frères et sœurs, ils ont la carte de séjour. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a moyen de lui faire des papiers ici en France pour éviter de faire les formalités à chaque fois, faire le visa et... Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai entendu parler, comme on dit toujours, entre ce qu'on dit et ce qui se fait réellement, c'est pas pareil. On m'a dit que quand elle a 3 enfants qui ont la nationalité française, il y a moyen qu'elle puisse faire des papiers.
Alors, quand bien même ils n'auraient pas la nationalité française, c'est vrai qu'il y a, pour faire simple, et à partir du moment où effectivement votre maman est au pays, vous établissez que c'est une femme qui est seule. Et
ouais, parce qu'il y a mon papa qui est décédé.
Bon, ben voilà. Donc alors, c'est vrai que c'est un argument qui peut être invoqué. Maintenant, il faut faire attention quand on engage ce type de procédure. Puisque vous me dites que votre maman donc fait des allers-retours sans difficulté, donc pour faire simple, que les autorités françaises lui font confiance en lui disant ok, on l'autorise à aller en France, mais on sait qu'elle va revenir. Ce qui peut parfois se passer, mais personne ne vous le dira aussi directement, c'est-à-dire que l'administration, si vous faites une demande de titre sur ces éléments-là en expliquant que tous les enfants sont en France, que cette femme est au pays, il n'y a rien qui interdirait, et c'est ça le côté un peu pervers, il n'y a rien qui interdirait aux autorités consulaires de se poser la question et de se dire, ok, mais si demain on l'autorise à nouveau à revenir sur le territoire français, qu'est-ce qui me dit que cette femme va quitter la France et retourner au pays, revenir au pays? Donc, peut-être que à partir du moment où on a parfois ce doute, il pourrait peut-être demain lui retirer le droit qui lui est accordé pour l'instant. Donc voilà, hein, ce sont vraiment des procédures. Quand on les engage, il y a intérêt de réfléchir. Parce qu'imaginez 2 secondes que demain, alors on vous dise non, attendez, moi il n'y a rien qui justifie que cette femme reste sur le territoire français et que demain, les autorités consulaires refusent aussi de lui attribuer un quelconque visa. C'est se tirer une balle dans le pied. Donc c'est entre guillemets un risque qu'on court ou qu'on ne court pas. Ça me semble quand même dangereux. Alors, si demain c'est refusé, évidemment, il y a des voies de recours, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a des voies de recours, et pendant toutes ces voies de recours, la situation n'est pas fixée, et puis les gens sont un peu minés. Donc,
elle a quel âge, votre mère?
Oh, quel âge, elle est née en 50.
En 50.
Maintenant, elle nous force à faire 50, le calcul. Donnez-nous l'âge.
68. Mais ils lui ont jamais refusé le visa.
Non. Pour le moment, elle a les visas, il n'y a pas de problème.
Alors, ce que vous venez de dire est intéressant. Pour le moment, moi, c'est ça qui me fait peur, madame. Vraiment, je vous dis, encore une fois, alors évidemment, les autorités consulaires vous diront jamais, puisque votre mère a fait telle demande, à partir de maintenant, il n'y aura plus de visa. Ouais, on vous le dit pas comme ça. Mais on sait que, tout ça est pris en considération.
D'accord, il vaut mieux alors garder les visas, elle vient avec les visas.
Écoutez,
plus, là, ils lui ont donné un visa de 2 ans.
Bon, selon moi, franchement, pardon pour ce que j'allais vous dire, mais j'allais vous dire, voilà, c'est suffisant pour l'instant pour votre maman. Il y a un risque de mettre un coup de pied dans la fourmilière et à la fin la France va vous regarder de travers et puis elle aura ni visa ni rien du tout. C'est ça qui est un peu inquiétant. Hein.
D'accord, très bien. Bah c'est en fait c'est ce que je voulais savoir.
Impeccable.
Ok, ben je vous remercie et bonne journée à tous.
Merci Kaina pour votre appel. Abdelali est avec nous au 01 53 48 3000. C'est un autre Abdelali que l'imam Abdelali. Hein. On imagine, on va voir. Abdelali, bienvenue.
Oui, bonjour, maître Serran.
Bonjour. Non, c'est pas la voix d'Abdelali Mamoun. Ouais.
Non.
Non, mais je suis pas déçu. Hein. Je suis. Alors, on vous écoute.
C'est un constat.
Absolument. Je n'ai pas une voix aussi timbrée que la vôtre, maître. Je voulais commencer par vous remercier par la qualité de nos échanges. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai envoyé des mails avec le délibéré. En fait, c'était
oui, absolument. Absolument. Voilà. C'est pour vos enfants et effectivement. Aucune des décisions enfin que vous m'avez transmises et que j'ai pu regarder, donc a priori il y a rien qui va dans votre sens.
Et vous avez
absolument.
Oui, vous avez vu quand même l'audition des enfants que vous voulez envoyer aussi.
Je sais c'est très alors bon je suis désolé alors, je ne sais pas si on peut évoquer en détail.
On a déjà eu le début de votre histoire. C'est un cas de divorce si je me souviens.
Oui tout à fait.
Ou de séparation qui se passe mal avec madame.
Et c'est vrai que monsieur a communiqué donc toute une série de documents. On a les auditions des enfants et comme ça de manière objective, on a du mal à comprendre la nature de la décision. Donc c'est vrai qu'on a du mal à comprendre ça.
Alors, je vais essayer de vous expliquer, si vous avez une minute, maître Serran. En fait, le juge, dans un premier temps, les enfants, ils en avaient marre. Ils étaient auditionnés trois fois. Et depuis le premier jour de départ de leur mère, ils voulaient rester avec leur père. D'accord ? Ils étaient auditionnés à plusieurs reprises. Figurez-vous bien, maître, on a eu 11 JAF. D'accord ?
Ouais.
Des JAF qui ont 22, 23, 24 ans, qui arrivent, qui ne comprennent rien au dossier. Enfin bref, vous connaissez le TGI dont il est question, c'est pas la peine de le nommer à l'antenne.
Bon, pour être tout à fait. J'allais juste dire que quels que soient les TGI. Voilà, quelles que soient les juridictions, vous avez évidemment des magistrats qui sont pas terribles, mais on a aussi de très bons magistrats. Voilà, des types et des femmes qui honnêtement, voilà, ils font leur boulot correctement quand même.
Ouais. N'arriverait jamais s'il n'y a pas des juges. Excusez-moi, je veux pas être vulgaire, qui en ont dans le slip, quoi. Vous comprenez de dire la loi quand quand le tribunal populaire.
Prévenez-moi la prochaine fois, Abdelali, on mettra un bip.
Voilà. Bah, vous m'avez promis de m'appeler Philippe Robuchon.
Je vous envoie. Je suis rentré hier. Vous êtes gentil.
D'accord.
Abdelali.
Oui, excusez-moi.
J'ai exigeant.
J'ai répondu à votre mail et j'étais à Bornéo.
Non, vous l'avez repris sur le terme slip. Il aime pas ça.
Il y a de quoi faire, maître. Vous savez, dans l'éducation en ce moment, il y a un chamboulement et vous avez un spécialiste devant vous. Devant vous, si on peut s'exprimer ainsi. Mais il faut que je travaille ma voix. Il faut que maître Serran me donne des cours pour avoir une voix aussi timbrée que...
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est dans le domaine de l'exceptionnel. C'est ce que je me dis très souvent en me regardant devant la glace avec mon micro.
Notre outil majeur, c'est la voix. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de cancers de larynx que je ne souhaite à personne, d'ailleurs.
Qu'est-ce que vous parlez de cancer du larynx?
Vous savez, maître, il y a beaucoup de... Les gens qui utilisent beaucoup leur voix, il paraît qu'ils chopent... ils sont... assujetti, donc, à ce...
D'accord. Ça vaut aussi pour le sexe, ou ça concerne que...
Non, enfin, je mettrai un bip aussi, maître Serran.
Bon. Alors, dites-nous.
Bon, donc, vos enfants veulent revenir chez vous. C'est ça. Alors, ça, on sait. Ils l'ont.
Écoute, là, maître, là, il faut rester... Restons, comment dirais-je?
Courtois. Alors, attendez. Donc, vos enfants ont manifesté, en tout cas, plusieurs fois, leur désir de revenir chez vous, Abdelali.
De rester depuis le premier jour. Alors, je vous explique. Ils étaient attendus trois fois, d'accord, par les JAF. Ils comprennent pas. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils disent, voilà ce qui se passe réellement chez notre mère, et ben, la mère, elle arrive, on est convoqué par la JAF. Alors, moi, évidemment, je m'emporte. Vous savez comment ils sont, les Méditerranéens. Je dis, mais madame la juge, d'ailleurs, une fois, j'avais une femme qui, elle comprenait pas tout ce que je dis. Mais bon, j'ai dit, ce qu'ils ont dit, c'est même pas l'once du début, du commencement, du dixième de la vérité. Ils vous ont dit juste que, d'accord, j'ai dit la dernière fois, voilà ce qui s'est passé. Et là, madame, elle a pris ses anti-trucs, elle a pris son lithium et tout. Elle s'est mise tranquillement, avec un visage angélique. Il faut préciser que madame est de souche française. Et elle a dit, madame, mes enfants, ils sont pris dans un conflit de loyauté. Et leur père, il leur dit qu'il va se suicider si jamais il répète pas mot à mot ce qu'il va dire. Et donc la juge, elle a cru, quoi, sur parole. Alors là, ce qui est le problème, mes enfants, donc, ils ont dit, allez, on en a marre, on veut être entendu par le juge, ok. Ils sont venus chez moi cet été, on est allé au Maroc, c'était compliqué parce qu'elle m'a interdit de sortir, je vous raconte pas l'histoire, hein, peut-être un autre jour. On est allé au Maroc quand même. Je suis revenu, d'accord. La mère, voyant qu'elle n'a pas le choix, elle m'a fait une lettre que je peux vous envoyer. Je te laisse les enfants, tu les mets à l'école que tu veux, il n'y a pas de problème. À une seule condition, je vous l'ai dit, hein, que tu me laisses les allocs, tout ça. Parce qu'elle a réussi à avoir 5 enfants. Je ne sais pas comment elle a fait pour avoir les allocs et le supplément familial du restaurant. Tout ça pour dire que tous ceux qui pensent qu'il n'y a que les Arabes font ça, ce n'est pas vrai. Hein.
Abdelali, je vous interromps. Pourquoi ? Parce que cette partie de l'histoire, vous nous l'avez déjà racontée. Il y a énormément de gens au standard. Donc j'aimerais savoir quel est le nouveau.
C'est ça.
La rediffusion,
le juge,
là, en fait.
Il dit la chose suivante. Mes enfants, ils ont dit, puisque maman, elle est d'accord pour qu'on vive chez papa, pourquoi on va aller chez ce juge ? Parce que c'est pas facile d'aller chez un juge pour un enfant de 13 ans. Vous êtes d'accord ? Bien. Donc, mon avocate m'a dit, bon, dans ce cas-là, la juge, la JAF, qui a changé entre-temps d'ailleurs, lui a demandé que mes enfants fassent une lettre de renoncement à leur droit d'être entendu. Parce qu'un enfant qui demande à être entendu, on doit l'entendre. Mais comme l'enfant, il ne veut plus, et il explique la raison, eh bien, dans ce cas-là, ok. Mes enfants avaient une avocate, d'accord. Ils ont envoyé la lettre à l'avocate aussi, en disant on ne veut plus, on renonce à notre droit parce que maman est d'accord. Eh bien, le juge, qu'est-ce qu'il a écrit? Moi, je ne comprends pas. Les enfants, ils disent que le père est d'accord pour qu'ils vivent chez leur mère. Alors que ce juge-là, je l'avais devant moi, là, la veille de Noël, pendant une heure, j'ai même fermé sa bouche à une des plus grandes, à une avocate de Paris, qui a pignon sur les Champs-Élysées, là. Je lui ai dit, monsieur, là, vous croyez que je plaisante, là, vous croyez que ça fait 7 ans que je me bats, que j'ai engagé un avocat, une ténor de Paris, là, que je paye très très cher, là, j'ai des années de salaire que j'ai versé à cette avocate pour que je ne prenne pas mes enfants. J'ai dit, elle veut jouer la montre. Elle veut, parce que si ses enfants, il n'y a pas de décision, c'est la décision d'avant qui s'applique, et madame, elle garde des milliers d'euros qu'elle touche et qu'elle engrange chaque mois, là. Eh bien, le juge, il a eu sur soi la décision. L'enquête, il a dit que l'enquêtrice sera 2 mois. Mais dès lors qu'elle est mandatée, elle n'est pas du tout mandatée. Et madame, elle connaît quelqu'un qui est derrière et il n'y a pas de justice. D'ailleurs, je ne veux pas extrapoler, mais regardez ce qui se passe pour un ami là, que je ne vais pas nommer pour ne pas
faire de polémique. Mais vous savez quoi, Abdelali, c'est oui, franchement... Philippe. Non, mais c'est votre histoire, elle est douloureuse, elle est importante. Mais à un moment donné, compte tenu du nombre d'appels qu'on a, il faut que vous posiez une question à Maître Serran, ça c'est important, parce que sinon on ne pourra pas vous garder aussi longtemps. Donc maintenant, techniquement, de quoi avez-vous besoin, Abdelali ?
J'ai fait une erreur d'écriture. Sachant que je n'ai que le courrier que mes enfants ont envoyé à l'avocat, j'ai le double de ça. Le courrier que mes enfants ont envoyé au juge, je ne l'ai pas, parce qu'ils l'ont fait de leur propre chef. Mais maintenant, je veux que le juge corrige cette erreur flagrante, où il dit que les enfants ont dit que j'étais d'accord pour qu'ils vivent chez leur mère, pour qu'ils d'abord corrigent ça, et donc s'ils corrigent, par voie de conséquence, le corollaire, c'est qu'ils changent sa décision.
D'accord, donc alors, comment obtenir...
Qu'ils prennent une décision
comment obtenir, Maître Serran, et comment amener un juge à revenir là-dessus.
Il n'y a qu'une seule et unique possibilité, enfin, mais Abdelali doit la connaître. À partir du moment où un magistrat rend une décision, quand bien même elle ne reflète pas ce qui a pu se dire lors de l'audience, c'est une procédure d'appel, mais rien d'autre. Voilà, il n'y a pas, non, je ne sais pas, c'est pas du bricolage. Attendez une seconde.
Parce qu'il n'a pas non, mais, décidé. Mais, il sursoit sa décision.
Bah, alors, s'il sursoit, faut attendre dans ce cas-là. Je vais vous dire un truc, encore une fois. Bon, alors, on a eu des échanges, mais on ne se connaît pas plus que ça. Sincèrement.
Vous m'avez jamais rappelé aussi.
Bon, alors écoutez-moi, j'allais dire sincèrement, je crois que vous êtes un mec pénible. Vous voyez, donc vous allez dans. Voilà, je vais aller dans votre sens. Mais je vous assure que si vous parlez comme ça à vos interlocuteurs, il n'y a pas un magistrat qui a envie de vous écouter. Les gens, c'est comme ça, monsieur. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être être dans votre bon droit. Et c'est légitime, et j'entends, je le comprends. Vous avez une manière d'expliquer qui fait qu'on n'a pas envie de vous écouter. Ouais, il y a une sorte de ton agressif, une sorte de je dis ça et c'est comme ça.
D'un côté, Adélie parle avec ses tripes.
Mais il a raison.
C'est la douleur qui s'exprime.
Sauf que vous parlez comme ça à un magistrat, il veut pas savoir si vous parlez avec vos tripes ou pas. Voilà, le juge n'a pas envie de vous écouter. Donc c'est ça la difficulté, je crois. Alors pardon de vous le dire tel que, hein, mais je préfère dire les choses clairement. Encore une fois, je dis pas qu'il n'y a pas d'injustice. Vous voyez, ouais. Bon, j'ai vu les éléments. Effectivement, monsieur, il y a, comme ça, a priori, une injustice. Mais si vous vous comportez à l'audience telle que vous pouvez prendre n'importe quel avocat, votre avocat pourra pas rattraper le coup. Ouais. Bah, de temps en temps,
parce
il faut savoir.
Parce que vous mettez les gens à dos, c'est ça?
Eh oui. De temps en temps, d'accord. Il faut savoir, même si vous dites, tiens, le magistrat va pas dans mon sens, mais il faut savoir quand même reculer un peu, comment dire, reculer pour mieux sauter.
Et. Ouais, c'est
procrète, quoi. Eh oui, mais non, mais, bon, bah, vous savez, encore une fois. Alors continuez dans vos techniques et vous allez vous fracasser la tête contre un mur.
Donc vous allez coacher Abdelali.
Mais non, ouais. Mais c'est pas être hypocrite, c'est jouer avec les règles qu'on a.
Tout à fait.
Voilà,
oui.
vous jouez avec vos propres règles, mais ce sont des règles que les magistrats n'appliquent pas. C'est ça le truc. D'accord. Vous voyez, il y a deux dimensions. Et vous êtes dans une autre dimension, Abdelali, c'est ça l'inquiétude, hein.
Non, je peux pas faire appel, donc je dois attendre que monsieur le juge décide de nommer.
Ah, mais, à partir du moment.
Si va nommer une enquêtrice, elle dira qu'elle a pas le temps. Elle va pas rendre, elle sera nommée dans 6 mois.
Non, mais oui, mais.
Au lieu de rendre dans 2 mois, elle va le rendre dans 1 an. Et maintenant,
Abdelali, j'entends bien. Non, mais tout ça est vrai, mais tout ça s'applique pour tous les dossiers qu'on a sur le territoire français.
Excusez-moi, maître, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Regardez le monsieur, là, qui, on va pas donner son nom parce que je suis désolé, mais bon. Tiens, juste comme ça, Philippe, excuse-moi, j'ai lancé une pétition, là, parce que je suis dans un milieu, il y a beaucoup d'agressions sexuelles, hein, d'accord, même si ça n'a rien à voir, hein, et que je soutiens
c'est
la personne
c'est c'est l'enseignement.
Alors, c'est bah, dans le lycée, à l'université.
Oui, à l'enseignement, c'est
une infime minorité, d'accord, mais c'est infime, elle fait beaucoup de mal. Alors que ces gens-là, que ce monsieur Genevois, là, qui était au courant que monsieur machin, il a abusé des jeunes filles, enfin, pas nommé, mais tout le monde aura compris, hein, d'accord. Moi, ces gens-là, si j'étais père de ces filles-là, ou de ce machin, eh bien, je porterais plainte contre lui parce qu'il a fermé sa gueule et il aurait dû dénoncer, là. C'est maintenant, il y a un proverbe arabe et marocain qui dit, c'est quand la bête est par terre que les couteaux, ils commencent à s'aiguiser, là. D'accord. Dernière chose, je vous assure, j'ai lancé une pétition, d'accord, balance ton professeur, là. Et tous ceux qui savent, les professeurs qui profitent de leurs abus, et moi j'en connais, mais j'ai pas de preuves, et M. Serran le sait, je ne peux pas attaquer sans preuve. Tous ceux qui sont au courant, tous les élèves, tous les enseignants, tous les parents qui savent qu'il y a des professeurs qui usent et abusent de leurs droits pour coucher avec des filles, là, qui les dénoncent. Quelles que soient leurs origines, leur religion, leur
machin. Bon, vous voyez, Abdelali, je veux dire un truc. Là, on s'éloigne de votre histoire, et encore une fois, vous avez raison. Donc, Maître Serran nous a donné un certain nombre d'éléments que je vous invite à peut-être à réfléchir, vous voyez, avec ça. Effectivement, aujourd'hui, la communication, c'est très important, surtout quand on défend ses intérêts, même si on est écorché vif, que c'est douloureux, que c'est ses enfants dont il s'agit, et qu'effectivement, aujourd'hui, il faut pouvoir donner le meilleur de soi-même, y compris dans un entretien avec un magistrat.
Mais
ça, c'est hyper important.
Mais j'imagine que, bon, Abdelali a probablement été assisté, mais j'imagine que le discours de son avocat doit être le même que le mien. C'est terrible pour les avocats d'essayer de, entre guillemets, de briefer nos clients. On leur dit.
Ça fait aussi partie de votre métier.
Mais bien sûr, mais
la partie accompagnement et coaching.
Mais complètement.
Bon.
Mais vous avez parfois des personnes qui vous disent oui. Et puis on arrive à l'audience et c'est un autre visage. Donc c'est important, je vous assure, c'est pas aller dans l'hypocrisie, mais je vous le redis, si vous venez avec vos propres règles et qu'il y a que vous qui jouez avec ces règles-là, vous perdrez tout le temps, Abdelali. C'est ça la difficulté.
Mais des fois les dés sont pipés dès le départ, je vous assure. Des fois la décision est prise avant que le magistrat vous voie, là, vous le savez très bien, maître.
Non, mais je sais rien du tout. Arrêtez à chaque fois de dire vous le savez très bien. Mais non, mais c'est pas sérieux de dire ça, Abdelali. Je vous assure.
C'est vrai.
Non, c'est pas sérieux de dire ça, encore une fois.
C'est du conditionnement aussi, c'est important aussi.
Excusez-moi, j'ai vu des histoires où des fois...
Non, mais il y a des exceptions, comme dans tous les domaines, vous voyez, comme quand là vous dites, attention, tous les... Non, c'est pas tous les professeurs non plus. Vous avez peut-être tendance à généraliser, c'est un peu inquiétant, ça.
Ouais, c'est possible. Bah, c'est normal, hein, vous savez, quand vous vivez une histoire comme ça, douloureuse, pendant 7 ans, vous devenez ma boule.
J'entends bien et je le comprends, mais puisque vous avez conscience de ça, il va falloir effectivement peut-être réviser le logiciel. C'est ça qui est important.
Bon, voilà, Maître Serran, c'est du coaching qui vous attend.
Ça va être difficile avec Abdelali, hein. Il est sculpté dans le marbre, là, je crois.
Moi, je vous ai rien fait, mais regardez pas comme ça.
Non, mais c'est vrai.
Sinon, on va régler ça pendant la pub.
Je regarde pas. Alors.
Hein?
Je regarde pas.
D'autres appels dans un instant. Abdelali, merci de votre appel. J'ai répondu à votre mail. Vous pouvez me réécrire. 01 53 48 3000. Maître Serran répond à vos questions. C'est tout droit jusqu'à midi sur Beurre FM.
11h midi. C'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran. 11h midi. C'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.
Serran qui répond à vos questions 01 53 48 3000 01 53 48 3000. Taos nous appelle de Villejuif. Bienvenue Taos.
Oui. Oui, bonjour Maître Serran. Bonjour Philippe.
Bonjour, bonjour Taos. Taos.
L'oiseau, hein. Je suis un oiseau moi. Voilà, pour être simple, j'ai trois enfants résidents en France. Je me retrouve toute seule en Algérie, j'arrive à avoir des circulations, mais j'aimerais bien savoir est-ce que je peux prétendre à une carte de séjour de vie privée familiale pour pouvoir rester avec mes petits-enfants.
Alors, c'est avec vos petits-enfants ou vos enfants?
Ben, mes enfants et mes petits-enfants.
Il n'y a plus personne au pays.
Personne.
D'accord. Vous avez des enfants qui seraient de nationalité française?
Oui, bien sûr.
Bon. Alors, encore une fois, ça avait été évoqué, je crois que c'était lors de la première question, c'est-à-dire que vous réunissez...
J'ai entendu cette question, mais moi, je suis actuellement ici en France.
Voilà.
C'est-à-dire, c'est pas une demande que je vais faire au consulat...
J'entends bien. Mais vous avez un visa de quelle durée? D'accord. Alors, rien vous interdit évidemment de faire la demande. Maintenant, il est certain, madame, qu'entre le moment où vous allez faire la demande et le moment où votre visa arrivera à expiration, vous n'aurez toujours pas de réponse. Donc la vraie question est de savoir à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez vouloir faire? Est-ce que vous dites, bon, bah, j'ai pas envie de griller mon visa, je vais quand même retourner au pays, mais la demande sera formalisée? Ou alors est-ce que vous dites, bah, tant pis, je vais rester ici, entre guillemets, pour, alors j'aime pas l'expression, mais elle est significative, pour peut-être leur forcer un peu la main. Donc il faut faire surtout attention à ça. Mais il est peu probable que vous ayez une réponse pendant la durée de votre visa.
Donc, c'est
important parce que on a parfois des personnes qui nous disent bon bah écoutez maître ok je vais rester. Et il y a une sorte d'impact psychologique, c'est-à-dire que lorsque le visa expire, on est, qu'on le veuille ou non, dans l'illégalité, et on a parfois des personnes qui angoissent assez fortement, donc qui pourrissent un peu la vie de leurs enfants en disant « mais mon visa est expiré », qui parfois sont un peu compliqués avec les avocats. Donc c'est pas une décision anodine, hein. Faut faire quand même attention à ça, tout en sachant que, madame... imaginez deux secondes, et n'importe quel avocat sérieux imagine tout le temps les deux hypothèses, quand ça passe, eh ben, y a pas de difficulté, mais si ça passe pas, si on vous refuse le titre, on va vous demander de quitter le territoire. Après, soit vous le quittez spontanément, soit éventuellement il y a une mesure d'expulsion, mais il est certain que même si vous quittez le territoire français spontanément, à partir du moment où vous avez grillé votre visa, la France ne vous fera plus confiance. Ouais, faut faire attention aussi aux répercussions. Donc si vous décidiez de rester sur le territoire français, dites-vous que vous allez rester pour très longtemps, puisque si on vous refuse, vous allez peut-être faire un recours devant un tribunal administratif, peut-être même devant une cour administrative d'appel. Enfin, voilà, ça c'est important. Mais si vous grillez votre visa et puis vous dites, bon, allez, j'en ai marre, je vais retourner au pays, et quelques temps après, vous faites une demande de visa, bon, vous imaginez bien que les autorités françaises vont s'en souvenir. Donc, faut faire attention quand même, voilà, à ce qu'on risque de perdre. Vous voyez, donc on vous autorise quand même à venir, donc faut faire attention à ça.
Justement, autour de moi, tout le monde qui me disait, il faut griller le visa, comme ça, un jour ou l'autre, de toute façon, on va vous régulariser, etc.
Non mais...
Moi, justement, j'ai pas l'intention de griller mon visa.
Ouais, mais c'est quelque chose qu'on entend souvent, Maître Serran, hein, c'est un conseil qu'on entend.
Non mais c'est vrai, souvent on entend dire ça en disant, bon, ben voilà, griller le visa,
grille-le,
voilà,
et puis au bout d'un moment. Les démarches.
Eh oui, sauf que...
Moi,
oui, mais non, là, ce sont des légendes urbaines. C'est important. Je ne dis pas que parfois ça passe pas, mais poser ça comme principe, c'est en disant, t'inquiète pas, tu vas griller ton visa de toute manière, tu feras une demande et au bout d'un moment ça va aboutir. Non, nous on a parfois des gens qui atterrissent chez nous, qui sont en France depuis X temps et le fait d'avoir grillé le visa, même si ça a été grillé il y a longtemps, encore une fois, l'administration retient tout, l'administration, donc...
De la mémoire.
Ah oui, à une mémoire qui est infinie, donc même si le visa a été grillé il y a longtemps, la France va s'en souvenir, et entre nous, madame, légitimement, faut pas oublier quand même que moi, France, si je donne un visa à une personne de nationalité étrangère, c'est une sorte de contrat qu'on passe ensemble. Donc c'est vrai que quand la France dit, oula, je vous ai fait confiance, vous avez trahi ma confiance, donc je ne vous donne pas de nouveaux visas, ça ne fait pas plaisir à entendre, mais on peut le comprendre. Vous voyez, il y a une certaine logique. Donc faites attention, je le redis, ce n'est pas anodin de griller son visa.
Oui,
donc,
oui.
Eh ouais.
Malheureusement, des fois, quand on demande de renouveler le renouvellement d'un visa, on a toujours peur de ne pas. On ne renouvelle pas le visa.
Ben oui, mais madame, je suis la France. Non, on va faire clair. Non, mais j'entends bien. C'est-à-dire que j'ai plein de personnes qui raisonnent comme ça. Vous attribuer un visa, c'est pas une obligation de ma part, moi, État français. Comme les autorités algériennes ont le droit de refuser des visas, comme le Maroc a le droit de refuser des visas à telle ou telle personne. Le fait de solliciter un visa, il faut pas se dire je demande un visa, tiens la France a refusé, pourquoi ? Il peut y avoir mille et une raisons. Vous avez la possibilité de contester ces refus. Mais il faut pas considérer dans ce domaine-là, tout ce qui concerne le droit des étrangers, je le dis souvent, il y a ce qui s'appelle, encore une fois, il y a la notion de pouvoir discrétionnaire. Je suis la France et chez moi, j'ai envie d'accepter qui je veux. Comme vous, à votre domicile, quand on toque à votre porte, s'il y a des gens que vous n'avez pas envie de voir, vous n'allez pas forcément les faire rentrer. Donc il y a ce raisonnement. Il faut jamais considérer que c'est une obligation de dire un tel ou un tel demande un visa, je vais lui donner. Non, il n'y a pas d'obligation en la matière. C'est terrible, mais je peux le comprendre. Tous les pays du monde raisonnent comme ça. Il n'y a pas que la France.
Bon, jusqu'à présent, Tao, vous avez toujours eu votre visa ?
Oui.
Bah, voyez-le. Alors, c'est ce que je disais à un auditeur précédemment. C'est le danger, c'est aussi ça. Alors évidemment, vous pouvez demander un titre et tout ça. C'est un droit, vous pouvez le solliciter. Mais prenez ça en considération. Qu'on le veuille ou non, même s'il y a des démarches à faire, même si c'est pénible, même si c'est chiant, même si c'est tout ce que vous voulez, vous avez un visa, on vous autorise à venir sur le territoire français. Parfois, des personnes prennent des initiatives, je le redis, que je peux comprendre, que je ne condamne pas. Mais j'insiste toujours auprès des clients pour leur dire, écoutez, on peut le solliciter, mais ce serait pas sérieux qu'un avocat, n'importe lequel, d'ailleurs, vous dit, oui, vous inquiétez pas, ça va passer. Non. Il y a que deux options. Si ça passe, eh ben, banco, tout le monde est content. Mais si ça passe pas, la France va s'en souvenir. C'est ça le danger. Et la France peut finir par même plus vous accorder de visa.
Donc, il n'y a pas une loi qui dit qu'on croit... Une maman qui est toute seule en Algérie et tout.
Non, pour aller un peu dans votre sens quand même. Vous voyez, je vais pas être que négatif. Vous réunissez tous les éléments, toutes les conditions, sincèrement, qui permettraient de faire cette demande. Franchement. Mais oui. Si je m'arrête qu'à ça. Vous voyez, donc alors vous allez être satisfaite de ma réponse, mais je serai intellectuellement malhonnête. Il y a quand même, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais il y a quand même une forte probabilité pour que la France, comme ça, spontanément, refuse. Et ça, il faut l'entendre. La question est de savoir si la France refuse, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous vous maintenez sur le territoire ? Ou est-ce que vous faites en sorte de pas griller votre visa ? Mais sachez quand même qu'à partir du moment où vous faites une demande de titre, quelle que soit la nature du titre, vous n'aurez a priori de réponse qu'après l'expiration du visa. C'est ça la difficulté. Donc vous réunissez sincèrement tous les éléments, mais ce serait pas sérieux de ma part de vous dire, vous inquiétez pas, à 100% vous faites la demande et puis ça va passer.
Votre conseil, c'est de pas tenter, c'est ça.
Quand on fait cette demande, même s'il y a un refus, on peut faire un recours, on est toujours dans
l'illégalité. Non, mais madame, vous venez en France, vous avez un visa, vous faites une demande, votre visa expire. Même si vous avez fait une demande de titre, la France va se baser sur la durée du visa qu'elle vous a donné. Elle va pas se baser sur la nouvelle procédure que vous avez engagée.
Si au-delà des 3 mois, vous êtes considéré comme
en situation légale. Voilà. Donc, c'est quand même un vrai coup de poker. C'est-à-dire qu'il y a intérêt de se dire, il faut quand même qu'on parte sur de bonnes bases et faire en sorte que ça passe. Parce que si ça casse devant la préfecture, vous serez en situation irrégulière. Si vous retournez au pays et demain vous refaites une demande de visa, on va vous dire, vous êtes gentil, mais à l'époque, vous êtes venu, vous avez pas respecté, donc on va vous le refuser. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de confrères qui donnent pas tous ces détails. C'est pas anodin d'être dans votre situation. Après, madame, si on vous a expliqué tout ça et vous dites, bon, moi, j'ai compris et puis j'y vais, je cours le risque, dont acte, il n'y a pas de problème. Mais c'est important que vous ayez quand même toutes les informations avant d'engager ce genre de procédure.
En fait, c'est un risque à prendre. En fait, je demande, si ça aboutit, c'est très bien, sinon, c'est un risque.
Sinon, c'est grillé.
Ah oui, voilà. Et la France va retenir que c'est grillé. C'est-à-dire que si vous leur dites, non, mais attendez, j'ai fait une demande de titre de séjour et puis c'était long, ils s'en foutent. On va vous dire, attendez, vous êtes venu comme touriste. Donc si c'est grillé, c'est grillé.
Mais Taous a raison, c'est un risque. C'est un risque à prendre.
Mais c'est un vrai risque.
Il faut en assumer ensuite.
Voilà, c'est ça qui est important.
Les conséquences.
Absolument.
Voilà, ça passe ou ça casse.
Exactement. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez toutes les informations et que vous courez le risque, mais nous, on le fait, hein, pour plein de clients. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de donner toutes les cartes au client, de lui dire attention, si vous prenez telle option, il y a certaines
connaissances de cause.
Après, bien sûr, il y a des gens qui tentent et puis banco, ça passe. Il y a des gens qui tentent et ça passe pas, et puis on est parti sur des procédures longues.
Oui, oui.
Non, c'est fini, Taos. Vous revenez la semaine prochaine. C'est fini pour aujourd'hui. Bon, vous revenez la semaine prochaine. Sinon, vous envoyez un mail à Maître Serran ou vous l'appelez
aussi
sur son numéro de téléphone qui va donner très gentiment à l'antenne.
06
est gentil, oui.
62 58 59 64 et un mail
non, répétez-le parce que si vous croyez que les gens ont réussi en plus à le noter, donc 06 ça c'est facile et
d'accord,
ensuite...
62 58 59 64, arrêtez de me regarder comme ça quand je trouve ça un peu inquiétant. Et mon mail maître.serran serhane @gmail.com.
Bien, je ne regarde pas pendant une semaine, vous êtes débarrassé Maître Serran. Et nous aussi, ça nous fait des vacances Maître Serran. C'est tout droit, vous venez la semaine prochaine Maître Serran. Vous avez une semaine aussi pour aller voir les photos d'éléphants.
Oui, on va...
Et d'orang-outan, Maître Serran. On parle de cuisine dans un instant avec les exploits du chef.
11h midi, c'est tout droit avec Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.